Et je vous invite à ouvrir la révélation de Dieu dans le livre de Luc, au chapitre 15. Un texte qui vous est maintenant connu, puisque nous l'avons déjà lu dimanche passé. Et nous lisons à nouveau les trois premiers versets et ensuite les versets 11 à 32 pour nous remettre dans cette merveilleuse parabole que Jésus a racontée à ses auditeurs. Tous les péagers et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient « Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. Et nous allons au verset 11. Entre les versets 3 et 11, il y a la parabole de celui qui avait 100 moutons, qui en a perdu un et qui va le chercher. Et ensuite une parabole d'une dame qui avait perdu un drachme et qui l'a cherché. Et verset 11, nous continuons. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je péris à cause de la faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père et lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons, réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et il s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour lui inviter. Alors il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, tu lui as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Il pleut, ça fait du bien. Il pleut. Et comme la pluie fertilise le sol, le Saint-Esprit fertilise notre âme, comme il est écrit dans Ésaïe 44, 3. Il la fertilise afin que sa parole puisse y pousser. Et c'est sur lui que nous continuons de compter pour ainsi saisir, comprendre cette parole de Dieu, la retenir, la mettre en pratique et la partager. Dimanche passé, nous avons commencé une petite étude sur deux prédications sur la parole que nous trouvons dans Luc 15, les versets 11 à 32. Pour ce périple, nous sommes conduits par le livre de Timothy Keller, qui est intitulé « Le Dieu prodigue, revenir au cœur de la foi chrétienne ». Dimanche passé, nous avons laissé nos deux fils perdus sans espoir. Même si c'est vrai que dans le développement, nous avons déjà un peu goûté au salut merveilleux de Christ et à l'amour du Père manifesté pour ses deux fils. Et aujourd'hui, nous allons parler du véritable fils aîné. Alors ça, c'est quelque chose, je dois vous dire, je l'ai découvert en lisant ce livre. Donc je vais vous le partager. Après avoir parlé du péché et de la perdition la dernière fois, nous parlerons aujourd'hui de l'espoir. Ce sera notre deuxième point. Et nous terminerons par le lieu où le Père invite ses fils à entrer. Le troisième point aura pour titre la fête du Père. Parlons maintenant de ce véritable frère aîné. Alors, pour qu'on entre dans ce sujet, nous avons d'abord besoin de savoir ce dont nous avons besoin. Keller commence par ces deux questions. Que faut-il faire pour nous libérer des chaînes de notre perdition? Qu'il s'agisse celle du jeune frère ou celle du frère aîné. Comment notre cœur rempli de crainte et de colère peut-il devenir joyeux, aimant et reconnaissant? Comment? Et il répond en disant que nous avons avant tout tous besoin de mesurer l'amour de Dieu pour nous. L'attitude du père envers ses fils est éloquente en fait. Face au petit dépensier qui voulait se réaliser, il court pour l'accueillir et ne lui laisse même pas le temps de terminer ses paroles. Ce n'est pas la repentance qui pousse le père à aimer son fils. Il l'aimait déjà avant qu'il revienne. Ce n'est pas la repentance qui pousse le père à aimer son fils. Il l'aimait déjà avant qu'il revienne à la maison. C'est plutôt en fait l'amour du père qui a poussé le jeune à revenir. Il se souvient de la maison. Face à l'aîné furieux, il le supplie de venir à la fête. Il le prie affectueusement de renoncer à sa colère et à sa propre justice. En fait, ce n'est pas le travail du fils aîné qui fait que le père l'aime. Il lui manifeste d'ailleurs de l'amour même lorsqu'il est en colère. Ce n'est pas le travail du fils aîné qui fait que son père l'aime, puisqu'il lui manifeste de l'amour même lorsqu'il est en colère. C'est l'amour du père qui appelle l'aîné à se joindre à la fête. Viens ! Viendra-t-il ? Comprenez que Jésus, ici, parle aux frères aînés. On a vu la dernière fois que cette parabole, elle est destinée, en fait, aux pharisiens qui l'écoutent. Ces pharisiens qui, en fait, cherchent à le mettre à mort. Et on voit que Jésus, ici, parle avec amour à ses ennemis qui voulaient le mettre à mort. Jésus n'aime pas seulement les péagés, mais également les religieux endurcis qui ont tous besoin du salut. C'est lui qui vient à nous, il le fait de diverses manières, tantôt en serrant dans les bras comme le fils cadet qui revenait à la maison, ou tantôt en plaidant avec douceur et patience, malgré notre entêtement. Que devons-nous faire pour être sauvés? Eh bien, nous sommes appelés à nous repentir de nos fautes. Mais si nous nous arrêtons là, nous risquons de rester des frères aînés. Les pharisiens, lorsqu'ils péchaient, avaient honte. Ils se repentaient et se punissaient en déplorant leur faiblesse. Mais ils agissaient ainsi pour se sauver par leur remords et leurs regrets. Si Dieu leur demandait pourquoi est-ce qu'ils devaient leur pardonner, eh bien, ils répondraient, eh bien, à cause de notre repentance, de nos remords, de nos regrets et ce que nous avons fait pour payer tout cela. Voilà pourquoi Dieu devrait leur pardonner. Mais ce n'est pas l'évangile du tout. Si l'Éternel demande à un véritable chrétien pourquoi il devrait lui pardonner, qu'est-ce qu'il répondrait? À cause de l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ qui a tout payé. Voilà pourquoi Dieu me pardonne. C'est à cause de l'œuvre expiatoire que Jésus-Christ a tout payé et que par sa grâce j'ai pu saisir par la foi. Voilà pourquoi Dieu nous pardonne. Qu'allons-nous donc faire pour être sauvés? Nous repentir, évidemment. Repentir pour nos fautes, avoir la foi. Mais pas seulement pour nos fautes, mais également pour les mauvaises raisons qui nous ont poussés à faire le bien. Et Keller dit, c'est seulement quand nous prenons conscience de notre désir d'être notre propre sauveur, c'est quand on commence à prendre conscience qu'on désire être notre propre sauveur et Seigneur, à la fois par nos péchés ou notre rectitude morale, que nous commençons à comprendre vraiment l'évangile et à devenir d'authentiques chrétiens. C'est quand on commence à comprendre ça, qu'en fait on veut être nos propres sauveurs, soit en gérant nous-mêmes notre vie et en allant dans la rébellion, comme le jeune fils, ou soit en fait en obéissant pour contrôler, comme l'a fait le fils aîné. Il ne s'agit pas simplement de faire le bien, mais une transformation radicale que Jésus donne, qu'on appelle la nouvelle naissance. Nous avons constaté que nous avons besoin de l'amour du Père et d'une profonde repentance biblique, mais il nous faut encore autre chose pour entrer dans la joie festive du salut. Et là, nous allons nous poser la question, mais de qui avons-nous besoin? Luc 15, tout le chapitre 15, nous apprend que Jésus n'a pas seulement raconté une seule parabole aux pharisiens. Hein, Jésus n'a pas seulement raconté une seule parabole à ces pharisiens qui n'appréciaient pas que Jésus soit entouré de pécheurs. Jésus leur a raconté trois paraboles. La première, que nous connaissons sous le nom de la brebis perdue, nous parle d'un homme qui avait 100 moutons. Une seule manque. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse toutes les autres et va la chercher parce qu'elle est importante pour lui. Et lorsqu'il la retrouve, qu'est-ce qu'il fait quand il retrouve sa brebis perdue? Eh bien, il fait la fête. Il fait la fête, je l'ai retrouvée, celle qui était perdue. La deuxième, intitulée La pièce perdue, raconte l'histoire d'une femme qui perd un de ses 10 drachmes. Elle fait tout pour la retrouver. Elle retourne toute la maison. Et au moment où elle l'a retrouvée, elle la met dans sa poche. Et puis elle passe à autre chose. Mais non, elle se réjouit. Elle va dire à toutes ses voisines, faisons la fête, j'ai retrouvé la pièce que je cherchais. Et la troisième parabole, souvent appelée le fils perdu, est celle que nous étudions. Hein, donc nous l'avons un petit peu en tête. Donc dans chacune de ces trois paraboles, il y a quelque chose ou quelqu'un qui est perdu. Okay? Dans chacune, celui qui a perdu quelque chose la retrouve. Et dans les trois cas, lorsque ce qui est perdu était retrouvé, il y a une fête. Mais d'accord? On retrouve ça dans les trois paraboles. Mais il y a une grande différence entre les deux premières et la troisième. Dans les deux premières, nous voyons le berger ou la femme chercher assidûment ce qui était perdu. D'accord, hein? Le berger va chercher la brebis ou la femme cherche sa pièce jusqu'à ce qu'il le trouve. Donc il cherche assidûment ce qui était perdu. Dans la troisième, lorsque nous voyons la situation critique du jeune fils perdu, ben il devrait logiquement y avoir quelqu'un pour aller le chercher. D'accord, les deux premières paraboles le disent clairement. Mais là, personne ne le fait. Personne ne le fait. Qui aurait dû aller chercher le fils perdu? Edmund Clowney raconte l'histoire d'un jeune soldat américain disparu pendant la guerre du Vietnam. Et comme la famille n'a reçu aucune information officielle, le frère aîné a pris l'avion et est parti au Vietnam pour chercher son frère au péril de sa vie. Il a fouillé la jungle, les champs de bataille pour le retrouver. Et tous ceux qui le rencontraient, puisque ça commençait à être connu ce qu'il faisait, tous ceux qui le rencontraient le respectaient et l'appelaient simplement le frère. Voilà ce que le frère aîné de la parabole aurait dû faire. Il aurait dû dire à son père, mais mon frère est stupide, il est en train de gâcher sa vie. Je ne vais pas le laisser tomber. Je vais aller le chercher et le ramener à la maison. Et s'il n'a plus rien, eh bien c'est moi qui paierai les frais. C'est vrai que tout ce qui était dans la maison du père appartenait au frère aîné maintenant. Jusqu'à chaque vêtement, chaque anneau, chaque sandale, chaque veau engraissé. D'ailleurs, l'aîné recevait à cette époque deux fois plus que les autres dans l'héritage. Dans le but de prendre en fait soin de toute la famille en cas de besoin. Ici, le frère aîné est en possession en fait des deux tiers de l'héritage et le petit frère est allé dépenser le tiers de l'héritage. Bien des personnes pensent que le rétablissement du plus jeune de la parabole n'avait aucun coût. Le pardon est gratuit. Alors oui, c'est vrai, le jeune frère n'a rien à payer, mais cela coûtait à celui qui accordait la grâce. Si le premier acte montre l'amour paternel gratuit, l'acte 2 montre ce qu'il coûte. En fait, le plus jeune frère ne peut revenir dans la famille que si le frère aîné assume le coût. Sinon, il ne peut pas revenir. Le plus jeune frère ne peut revenir dans la famille que si le frère aîné assume le coût. Malheureusement, nous n'avons pas dans cette histoire un frère aîné prêt à tout donner pour sauver son frère qui était perdu. Le plus jeune frère a malheureusement un frère aîné qui est un pharisien. Mais ce n'est pas notre cas. Pensez au genre de frère dont nous avons besoin, qui n'est pas seulement prêt à nous chercher au bout du monde, mais qui n'hésite pas à descendre du ciel sur la terre. Il nous faut quelqu'un qui puisse payer notre dette envers le Dieu parfaitement saint. Car que nous soyons de la catégorie des frères cadets ou des frères aînés, comme nous l'avons vu la dernière fois, nous sommes en rébellion contre Dieu. Nous méritons l'exclusion, la mise à l'écart, le rejet. Le pardon a toujours un prix que quelqu'un doit payer. Mais notre véritable frère aîné a payé notre dette à la croix à notre place. Notre véritable frère aîné a payé la dette à notre place sur la croix. Comme le dit si bien Keller, là, Jésus a été dépouillé de sa tunique et de sa majesté pour que nous puissions être revêtus de dignité et avoir une place que nous ne méritions pas. Là, il a bu la coupe de la justice éternelle afin que nous puissions goûter à la coupe de joie du Père. Celui-ci ne pouvait pas nous accepter autrement. Notre frère aîné devait payer pour nous. Nous souvenir avec émotion de tout ce que notre Sauveur a payé pour nous ramener à la maison remplira notre cœur d'amour, de joie et de reconnaissance au lieu de la crainte et de l'irritation. Quand nous contemplons son œuvre à notre faveur, notre cœur est attiré vers lui. Quand on commence à saisir ce qu'il a vraiment fait pour nous, en fait, on est attiré vers lui. Nous prenons conscience que l'amour, la grandeur, la consolation et l'honneur que nous avons cherché partout ailleurs se trouvent vers lui. C'est vers lui que nous trouvons l'amour, la grandeur, la consolation, l'honneur et tout ce dont nous avons besoin. Et si le Seigneur, souverain de l'univers, nous aime tant qu'il accepte un tel sacrifice, de quoi aurions-nous peur? C'est lui qui maîtrise tout. Nous avons besoin d'un véritable frère aîné. Et nous l'avons en Jésus-Christ. Prenons maintenant un peu de temps pour parler de ce qui nous attire vers la maison. C'est le deuxième point, une redéfinition de l'espoir. Notre désir de rentrer chez nous. Il est parfois bon de prendre un peu de recul et de lire les textes bibliques dans le contexte général de la révélation de Dieu, où plusieurs thèmes reviennent sans cesse. Et l'un des thèmes qui revient sans cesse dans la parole de Dieu, c'est le thème de l'exil et du retour à la maison, hein, ou de l'esclavage et de l'entrée dans le pays. Ça revient fréquemment, régulièrement dans toute la parole de Dieu. Et en regardant cette histoire des deux fils perdus, à qui le salut est offert, nous voyons en fait l'histoire de toute l'humanité. Et il nous indique l'espoir pour le monde. Quel est l'espoir pour le monde ? C'est la maison du Père dans laquelle il y a la joie et où chacun est invité à entrer. Nous avons tous, en fait, un certain mal du pays, un désir de retrouver la maison où tout est chaleureux, doux, beau, paisible. Rentrer à la maison. Dans un certain sens, nous sommes tous semblables aux frères cadets. Nous sommes en fait tous exilés et nous aspirons à trouver notre vrai foyer. Nos familles et nos maisons actuelles ne sont que des auberges, en fait, qui jalonnent ce périple. Notre foyer, quelque part, nous échappe sans cesse. Pourquoi ? C'est un autre thème biblique qui laisse une trace dans notre âme. Le début de la Genèse nous apprend pourquoi nous avons l'impression d'être en exil et nulle part chez nous, vraiment. Nous avons été créés pour vivre dans le jardin de Dieu. Nous avons été créés pour vivre dans le jardin de Dieu. Ce foyer parfait, cette maison où l'amour était sans faille, où aucun mal n'était connu. Hein, nous avons été créés pour vivre dans le jardin de Dieu. Ce foyer parfait, cette maison où l'amour était sans faille, où tout mal était inconnu. L'homme vivait dans une parfaite harmonie avec son Créateur et avec les autres. Hein, et il le vivait et il le servait avec joie. Et la Bible nous enseigne que nous ne voulions pas de sa souveraineté. Nous nous sommes détournés de lui et avons perdu notre maison. Comme le jeune fils dans la parabole. En conséquence, nous sommes devenus des exilés qui languissent après leur maison. Nous vivons dans un monde qui ne satisfait pas nos besoins les plus profonds. Nous aimerions avoir un corps qui ne s'use pas et qui reste jeune. Mais nous avons un corps qui est soumis à la maladie, au vieillissement et à la mort. Nous aimerions vivre l'amour sans ombre, sans l'ombre d'un seul conflit, avec toutes les relations que nous avons. C'est vrai, c'est ce que nous désirons, non? Nous aspirons à cela. Mais toutes nos relations sont marquées par les coups et les blessures. Nous ne réaliserons jamais pleinement nos espoirs et nos rêves. Nous pouvons travailler de toutes nos forces pour construire la maison perdue. Nous ne pourrons jamais la construire nous-mêmes. En fait, cette maison n'existe qu'en présence du Père céleste, loin duquel nous nous sommes enfuis. Mais vers lui, oui, elle existe, cette maison. Elle existe auprès de lui. Nous avons tous le désir de retrouver le jardin perdu inscrit dans notre humanité. Mais pourquoi est-ce si difficile? Normalement, la maison est un lieu où on est toujours accueilli. Généralement, on se dit, ben là, c'est au moins un endroit où je peux être accueilli. Mais le jeune frère, dans la parabole, ne pense pas que c'est acquis, cet accueil. À ses yeux, il a trop péché. Ses péchés sont devenus une trop grande barrière. Il risque d'être rejeté et obligé de rester loin de chez lui. Le peuple d'Israël, en exil, avait reçu des promesses des prophètes qu'ils allaient retourner à la maison. Et le moment venu, vous connaissez l'histoire avec Cyrus, etc. Eh bien, des Juifs sont retournés d'exil en Israël. Peu de Juifs, mais quand même, quelques-uns sont rentrés. De retour, l'histoire continue, et l'oppression revient par les Grecs, par les Syriens, et maintenant du temps de Jésus, par les Romains. Pourquoi le peuple est-il toujours oppressé alors que le retour de l'exil à la maison était promis? Parce que le problème vient de l'intérieur du cœur de l'homme. De plus, le monde actuel n'est pas celui auquel nous rêvons, qui est écrit au départ. Rentrer chez nous impliquerait aussi un changement de toute la création pour retrouver ce jardin, en fait. Beaucoup d'Israël du temps de Jésus étaient conscients que malgré leur tour d'exil, Israël n'était pas encore vraiment retourné chez lui. Ils attendaient un roi qui les délivrerait politiquement. Et Jésus arrive et annonce la venue d'un royaume. Mais il ne répond pas aux attentes de l'époque. Parce que Jésus n'est pas venu pour une délivrance politique, militaire, religieuse ou intellectuelle. Il est venu pour sauver du péché, du mal, de la mort. Il est venu ramener l'humanité à la maison. Il a pris sur lui l'exil que nous méritions. Il a été privé de la présence du Père afin que nous n'en soyons jamais privés. Quand il a dit sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il l'a fait pour que ça ne soit jamais le cas pour ceux qui sont en lui. Sans l'œuvre de Jésus-Christ, le retour à la maison serait parfaitement impossible. Voilà pourquoi c'est difficile. Parce que nous cherchons souvent à le faire par nous-mêmes. Mais Jésus n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Et comme la fin des paraboles du chapitre 15 se termine par des fêtes, l'Apocalypse de même annonce une fête finale, les noces de l'agneau. Tout sera comme le jardin d'Éden, je dirais même mieux. Il est dit dans Apocalypse 21, verset 3, « J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Nous vivrons en fait dans une joie immense et profiterons des bienfaits de Dieu, tellement qu'en fait on n'arrive pas vraiment à l'imaginer. voyez, nous vivrons dans une joie immense. Nous profiterons des bienfaits de Dieu. Et c'est tellement plus que ce qu'on peut imaginer qu'on a de la peine à le saisir, en fait. Mais ça sera juste tellement extraordinaire. La maison du Père, c'est le symbole du salut. Également, hein, là on parle du symbole du ciel, de ce lieu, de cette maison parfaite vers laquelle, eh bien, on est appelé aussi par le Père à entrer. Mais c'est aussi le symbole du salut, et nous allons réfléchir à ce dernier aspect ensemble pour ce troisième point que j'intitule la fête du Père. Le Père fait une fête dans sa maison avec le veau gras, hein, vous vous souvenez dans la parabole. Si nous croyons à l'Évangile, nous avons une nouvelle identité et la relation avec Dieu restaurée. Nous sommes entrés dans la maison de grâce. Que se passe-t-il dans nos vies alors? Si nous vivons conformément aux enseignements de Christ, en quoi notre vie change-t-elle? Parce qu'elle change notre vie. Si elle ne change pas, c'est qu'on n'est pas encore entré. Et le salut est comme une fête dont voici les traits caractéristiques. La fête est une expérience. Deuxièmement, la fête est matérielle, elle est tangible. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Troisièmement, la fête nourrit chacun individuellement. Et quatrièmement, la fête ne se fait pas seule, elle est collective. Nous allons reprendre ces quatre éléments et l'appliquer au salut, justement. Le salut est une expérience. Lors d'une fête, vous avez déjà tous vécu des fêtes, ou bien? Il semble, hein? Lors d'une fête, tous nos sens sont comblés. La vue, c'est bien décoré, hein? L'odorat, ça commence à venir dans nos têtes, là. L'ouïe, le goût, enfin, tout est en effervescence. Vous savez, le salut n'est pas seulement objectif et légal, il est aussi subjectif et vécu. C'est pas juste raisonné. C'est quelque chose de vécu. Et Jonathan Edwards, dans un sermon, dit ceci: croire que Dieu est saint et compatissant, et saisir intérieurement dans notre cœur la merveilleuse beauté de cette sainteté et de cette grâce, sont deux choses différentes. Croire que Dieu fait grâce et goûter sont deux choses aussi différentes que croire rationnellement que le miel est bon et en sentir la douceur dans notre palais. Croire que le miel est bon, c'est une chose. Ressentir sa douceur dans le palais en est une autre. Si nous nous sentons honteux et coupables, nous n'avons pas seulement besoin de croire au concept abstrait de la clémence de Dieu, nous devons goûter. En quelque sorte, le palais de notre cœur doit sentir la douceur de sa bonté. Alors nous saurons que nous sommes vraiment acceptés. Alors c'est vrai que tout le monde ne connaît pas la même expérience, puisqu'on est différent, on a des caractères différents. Certains ont un tempérament plus rationnel et mesuré. À ces personnes, je les encouragerais vraiment à chercher à vivre leur foi aussi dans leurs sentiments. Les sentiments font partie de ce que Dieu nous a donné, et ils doivent être touchés par le salut en Jésus-Christ. D'autres, à l'inverse, ont tellement soif d'expérience mystique qu'elles assimilent toute intuition ou tout sentiment fort à la parole du Seigneur. Or, j'encourage ces personnes-là à mesurer toute chose à la révélation complète et en utilisant l'intelligence que Dieu nous a aussi donnée. Si le salut est une expérience, le salut est également matériel. Le salut est matériel. La fête dans la maison du Père est concrète. Un veau gras est préparé. C'est pas juste dire à la maison, super, puis il n'y a rien. Non, il y a quelque chose. Dieu aime le monde matériel. C'est lui qui en est le créateur. C'est lui qui a créé toutes choses. Et même après sa résurrection, Jésus a un nouveau corps. Et il mange d'ailleurs. Hein? Il a d'ailleurs promis une nouvelle terre. Dieu aime le monde matériel, n'en déplaise à ces mystiques qui désincarnent la foi. Dans Matthieu 25, un autre exemple. Matthieu 25, lors du jugement présenté par Jésus, il est question de ce que les hommes ont fait matériellement. Est-ce que vous avez vêtu celui qui avait besoin d'habits? Enfin, c'est matériel tout ça. Les jeunes frères sont trop égoïstes et les frères aînés trop imbus d'eux-mêmes pour se préoccuper de ces choses matérielles. Alors que le christianisme que l'on trouve dans la maison du Père, en fait, est la religion la plus concrète du monde. Dieu, écoutez bien ça, c'est fort ici. Dieu déteste, c'est plus fort encore, mais Dieu déteste tellement la souffrance, l'injustice et le mal et la mort que Jésus est venu les subir et les vaincre. Dieu déteste tellement la souffrance, l'injustice, le mal et la mort que Jésus-Christ est venu les subir et les vaincre. Vous connaissez sûrement cette citation. C'est Karl Marx qui le dit. Qu'en fait, la religion, c'est l'opium du peuple. Il pense à l'homme passif devant l'injustice sous prétexte que tout s'arrangera au ciel. Mais Dieu s'engage ici-bas. On vient de l'entendre, Jésus-Christ est venu. Et il engage ses enfants à combattre la souffrance et l'injustice sur cette terre. Oui, nous avons une espérance céleste, évidemment, mais c'est pour vivre ici, maintenant. Et s'il est bien compris, le christianisme n'est absolument pas l'opium du peuple, il en est plutôt le sel. Si le christianisme est bien compris, il n'est pas l'opium du peuple, hein, il en est le sel. Si le salut, comme la fête dans la maison du Père, est une expérience concrète et matérielle, le salut est également individuel. Le repas dans la maison du Père favorise la croissance et la santé, surtout à celui qui n'avait rien à manger comme le frère. Souvenez, il aurait voulu manger ce que les pauvres mangeaient. Il arrive dans la maison du Père, il est nourri avec le veau gras. Pour survivre et grandir, il faut manger et boire régulièrement. Que mangeons-nous? Mangeons-nous l'obéissance? Où mangeons-nous l'amour et la grâce? Je m'explique. Le principe de la religion, c'est j'obéis, donc je suis accepté par Dieu, et ma nourriture, c'est l'obéissance. Hein, le principe de la religion, c'est j'obéis, donc je suis accepté de Dieu. Donc ma nourriture, c'est l'obéissance. Le principe de l'évangile, par contre, c'est je suis accepté par Dieu. Grâce à l'œuvre de Christ, donc j'obéis. Ma nourriture, c'est la grâce et l'amour de Jésus-Christ. Vous voyez la différence? Le principe de l'évangile, c'est je suis accepté par Dieu grâce à l'œuvre de Christ, donc j'obéis. Ma nourriture, c'est donc la grâce et l'amour de Christ. Instinctivement, et même lorsque nous sommes chrétiens, nous avons tendance à manger l'obéissance, en fait. Je fais quelque chose, ainsi tu me dois quelque chose. Je cherche ma justification, mon espoir, ma valeur, ma sécurité ailleurs qu'en Dieu. Cela nous amène à nous irriter lorsque Dieu n'agit pas comme nous le pensons. Cela amène de la crainte de ne pas en avoir fait assez, de la colère de Dieu et de la colère de Dieu nous arrête. Mais plus nous nous nourrissons par contre de l'Évangile, que nous le digérons, et qu'il fait partie de nous-mêmes, et plus nous serons paisibles, quoi qu'il arrive dans notre vie. Comment mieux ingérer ces principes de l'Évangile? Comment mieux les digérer, hein? Comment mieux les manger quelque part? Eh bien, voici deux exemples. Le premier, c'est un exemple en lien avec la finance, et le deuxième, en lien avec les relations. Peut-être quelqu'un comprend qu'il est important d'être généreux selon Dieu, mais il n'y parviendra pas en se forçant à le faire. En fait, il doit réfléchir à ce qui le freine. Aux yeux de beaucoup, en fait, posséder beaucoup d'argent est un moyen de gagner l'approbation et le respect des autres et de sentir que nous sommes maîtres de notre vie. Il n'y a qu'un peu réfléchir quand vous pensez à des personnes qui ont de l'argent peut-être autour de vous. Souvent, vous avez même plus de respect pour ces personnes-là. Et souvent, vous vous dites, bah, eux, au moins, ils sont maîtres de ce qui se passe. L'argent n'est alors plus seulement utile, mais l'objet de notre confiance et de notre espoir. Alors Paul, pour aider les Corinthiens à être généreux, ne fait aucune pression sur leur volonté. Il fait appel à leur identification à Christ. Il parle des pauvres qui souffrent alors qu'eux sont dans des meilleures conditions et il leur dit, c'est dans 2 Corinthiens 8, hein, c'est là que l'apôtre Paul parle de ces notions, et il dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que ça, par sa pauvreté, vous soyez enrichis. 2 Corinthiens 8, 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il fait appel à la connaissance de ce que Christ a fait, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. En fait, l'apôtre Paul nous conduit à l'évangile et veut toucher notre cœur. Pensez à sa grâce coûteuse jusqu'à ce que vous vouliez donner comme il l'a fait. C'est ça, en fait. C'est pas donner plus. Non. C'est penser à ce que Christ a donné. Donc, pour remédier à notre avarice, contemplons la générosité de Christ dans l'évangile. Il a renoncé à tout pour nous. Et non pas forçons-nous à faire quelque chose ou à donner plus, non. Pour remédier à notre avarice, contemplons la générosité de Christ dans l'évangile. Il a renoncé à tout pour nous. Nous voyons ici que lorsque l'évangile pénètre notre cœur avec la compréhension de cette facette du don de Christ, notre générosité sera motivée par l'amour que nous lui portons. C'est comme lui que nous désirons vivre et en réponse à son œuvre pour nous. Vous voyez, ça c'est se nourrir de l'évangile. Se nourrir de l'obéissance, c'est se dire « Ah, il faut que je sois plus généreux, ok, je vais un peu calculer, je vais donner un peu plus. » Voilà. Mais rien n'a changé à l'intérieur, rien du tout. Deuxième exemple est relationnel, comme je l'ai annoncé. Peut-être souhaitons-nous consolider notre mariage. Paul s'adresse aux époux qui vivaient dans une société où l'homme cherchait surtout la richesse de sa femme et trouvait en fait son plaisir sexuel ailleurs. Les femmes étaient méprisées par leur mari. Paul, quand il écrit aux Éphésiens, guidés par le Saint-Esprit, ne menace pas ses lecteurs et ne se contente pas de les encourager. Il présente l'évangile de manière poignante. Jésus, l'époux, aime tant qu'il se sacrifie pour son épouse. Il leur dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, pour faire paître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et Keller dit ceci à ce propos, « Si notre couple bat de l'aile, la solution consiste à adopter l'amour conjugal sans faille de Christ dans l'Évangile. » Si notre couple bat de l'aile, la solution consiste à adopter l'amour conjugal sans faille de Christ dans l'Évangile. Tu ne commettras pas d'adultère, prend tout son sens dans le contexte de l'amour conjugal, si je puis dire, de Jésus, en particulier sur la croix, où il est resté totalement fidèle à son épouse, jusqu'au bout. C'est dans la mesure où nous saisissons l'amour de Christ, notre époux, que nous sommes capables de vaincre la convoitise. Son amour comble notre cœur, ce qui nous évite de chercher dans la sexualité, par exemple, ce que lui seul peut nous donner. Ce n'est pas en redoublant d'efforts pour suivre des règles morales que nous deviendrons fidèles et généreux, mais en mettant en pratique la transformation que produit une meilleure compréhension de l'Évangile. Voilà pourquoi j'aime parler de l'Évangile. Regardez toutes les facettes de l'Évangile. C'est ainsi qu'on pourra devenir plus fidèle encore, plus généreux et tant d'autres choses. Certains diront, et je l'ai entendu, oui, mais bon, répéter sans cesse que nous sommes aimés et acceptés par sa grâce est dangereux, parce que cela enlève la motivation d'obéir. Mais si en perdant la crainte de la sanction, nous perdons du même coup tout désir dans l'obéissance, quelle était notre première motivation? Si on dit que si on enlève la crainte, on n'obéit plus, tu remarques, quelle était la motivation d'obéir? La peur. La peur. Existe-t-il une autre motivation pour vivre dans l'obéissance? Eh bien oui, un amour profond, respectueux et reconnaissant. Lorsque nous aimons quelqu'un, que nous le respectons, que nous reconnaissons aussi son autorité, nous allons lui obéir, non pas par peur, mais parce que nous sommes reconnaissants qu'il prend soin de nous, il nous dit des choses à faire et à vivre qui sont bonnes, selon lui, pour nous. L'enseignement incroyablement merveilleux du salut par sa grâce seul a deux facettes. Hein, cet enseignement du salut a deux facettes. D'un côté, il abolit la peur servile. Dieu nous aime inconditionnellement. malgré nos failles et nos échecs. Ça, c'est fondamental. Si on ne comprend pas ça, on va toujours essayer de faire quelque chose pour qu'il nous accepte. Non, il nous accepte tel que nous sommes, avec nos failles, inconditionnellement. C'est juste fabuleux, c'est extraordinaire. Et d'autre part, dans ce salut merveilleux, eh bien, il nous a rachetés en Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? C'est son œuvre. Eh bien, s'il nous a rachetés, il l'a fait à un grand prix d'ailleurs, le prix de son sang, eh bien, nous lui appartenons totalement. Vous voyez? Il y a la facette d'être totalement accepté par Dieu, et il y a la facette de totalement appartenir à Dieu, puisqu'il a payé pour que nous puissions être rachetés. Et ainsi, quand nous savons que nous appartenons à Dieu, eh bien, nous allons aussi vivre l'obéissance, puisque nous lui appartenons. Il a tout fait pour nous. Pourquoi nous agirions pas aussi comme il le demande? Beaucoup de gens disent, si je suis uniquement sauvé par la grâce de Dieu et que mes œuvres n'entrent pas en ligne de compte, ça veut dire que je peux vivre n'importe comment et être sauvé. Mais ça, c'est comprendre que le premier aspect. C'est pas comprendre le deuxième aspect. Ceux qui réagissent ainsi oublient que si la grâce est gratuite, elle a aussi un coût extrêmement grand. Celui qui est conscient du prix que Christ a payé pour le sauver n'hésitera pas à le suivre quoi qu'il puisse lui en coûter. Et cela ne le conduira pas dans une vie débridée, mais une vie qui progresse à la ressemblance de son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et la vieille formule de Luther résume bien la question quand il dit « Nous sommes sauvés par la foi seule et non par nos œuvres, mais par la foi qui ne reste pas seule. » Si le fait de croire en Jésus n'a aucun impact dans notre manière de vivre, au lieu de redoubler d'efforts pour essayer de vivre comme Dieu veut, demandons-nous si nous avons compris ce que le Sauveur a fait pour nous. Avant de se mettre des nouvelles règles pour vivre ce que Dieu veut, ou bien quand on est face à un péché, peut-être récurrent, qui revient régulièrement, avant de dire qu'est-ce que je vais mettre en place pour ne plus pécher, dire attends, est-ce que j'ai vraiment compris ce que Christ a fait pour moi, pour cette situation précise aussi? Parce que c'est là que nous puiserons la force pour entrer dans ce combat aussi face au péché. Mangeons-nous l'obéissance ou la grâce et l'amour de Dieu? Ou dit autrement, notre acceptation de Dieu est-elle basée sur notre obéissance ou sur son amour qui nous motive à lui obéir? Si le salut, comme la fête dans la maison du Père, est concret, matériel, individuel, il est finalement également collectif. Le salut est collectif. Par nature, une fête est collective. On n'organise pas une fête tout seul. Vous avez déjà fait une grande organisation, puis vous faites la fête tout seul. Mais non! On le fait avec d'autres personnes. C'est un moment qui est partagé. Et dans la logique de Dieu, qui n'est pas la nôtre, nous donnons ce que nous avons plus nous donnons ce que nous avons reçu, et plus nous nous enrichissons. C'est la logique de Dieu. Elle est juste fabuleuse. J'aime la répéter. Plus nous donnons, plus nous nous enrichissons. C'est pas tout à fait la logique financière, hein. Parce que quand on donne, on a l'impression de perdre, mais pas avec Dieu. Plus nous donnons, plus nous recevons. Afin de mieux comprendre aussi cette notion de recevoir ensemble, par les uns les autres, afin de mieux comprendre que nous connaissons mieux Jésus-Christ aux côtés d'autres chrétiens, et pas en restant tout seul chez soi, voici ce que dit C.S. Lewis lorsqu'un des trois qui formait leur cercle d'amis est décédé. Ils étaient trois amis, il y en a un qui est décédé, et voici ce qu'il dit. « Dans chacun de mes amis existe une part que seul un autre parmi eux peut amener à s'exprimer pleinement. Seul, je n'ai pas l'envergure suffisante pour susciter l'activité d'un être humain dans sa totalité. J'ai besoin d'autres lumières que la mienne pour faire briller toutes ses facettes. Maintenant que Charles Williams, un des trois amis, est mort, je ne verrai jamais Ronald Tolkien réagir à ces plaisanteries dont il avait le secret. Loin d'avoir plus Ronald, de l'avoir à moi tout seul, maintenant que Charles est parti, j'en ai en réalité moins. Cette amitié montre une merveilleuse proximité par ressemblance avec le paradis où la multitude des bienheureux, que personne ne peut dénombrer, augmente la joie que chacun éprouve en Dieu. En la voyant à sa manière, chaque âme transmet, sans aucun doute, cette vision unique à toutes les autres. Plus nous mangeons le pain céleste, plus nous en aurons. Comprenez ce qui vient d'être dit ici par rapport à cette notion? Si chaque personne partage ce qu'il reçoit de Christ aux autres, c'est tout ce que les autres reçoivent en plus. Et plus nous sommes, et plus nous recevons. Beaucoup de personnes désirent mieux connaître Jésus-Christ. Vous avez déjà entendu ça? J'aimerais mieux connaître Jésus-Christ. Eh bien, c'est seulement dans la mesure où nous ferons partie d'un groupe de croyants qui cherchent à ressembler à Jésus-Christ, à l'aimer, à le servir, que nous le découvrirons vraiment davantage et lui ressemblerons de plus en plus. Ce n'est pas seul dans notre coin. Beaucoup de personnes désirent mieux connaître Jésus-Christ. Et c'est seulement dans la mesure où nous faisons partie d'un groupe de croyants qui cherchent à ressembler à Jésus-Christ, à l'aimer, à le servir, que nous le découvrirons davantage et lui ressemblerons de plus en plus. En conclusion à ce développement de la parabole des deux fils perdus ou du père prodigue, comme vous voudrez, nous avons vu aujourd'hui trois choses importantes. La première, c'est que dans le contexte de Luc 15, avec les deux autres paraboles, nous avons pu comprendre que Jésus est le véritable frère aîné qui a tout payé pour que nous puissions entrer dans la maison de la joie du salut du Père. Nous avons un frère aîné qui a tout payé. Quelle grâce! Réjouissons-nous. Deuxièmement, nous avons été créés pour vivre dans le jardin de Dieu. Et grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, nous entrerons à nouveau un jour dans ce jardin, représenté dans la parabole par la maison du Père. Et enfin, troisièmement, la fête dans la maison paternelle représente le salut, qui est une expérience matérielle, individuelle pour sa nourriture et collective pour mieux découvrir l'Évangile et ressembler à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Quelle joie de savoir que le Père, dans cette parabole de Luc 15, représente Dieu. Et qu'il manifeste l'amour et accueille autant le fils cadet rebelle qui est parti que le fils aîné furieux et fâché. Est-ce que tu as déjà répondu à l'appel de ce Père aimant et si prodigue? Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes émerveillés, encouragés, fortifiés. De savoir que si dans cette parabole des deux frères perdus, avec ces paraboles qui le précédaient, tu as pu suggérer aussi à ceux qui t'écoutaient qu'il y avait un souci quand personne n'allait chercher ce frère perdu, eh bien tu nous permets de saisir et de comprendre encore mieux cette grâce d'avoir un frère aîné en Jésus-Christ qui a réellement tout payé. Lui qui avait tout reçu du Père, lui qui a totalement obéi, mais pas dans une obéissance calculée, mais dans une obéissance pleine d'amour, dans une obéissance qui était prêt à se donner, qui avait le même cœur que le Père. Jésus-Christ, notre frère aîné, a le même cœur d'amour que le Père. Quelle grâce, Seigneur, nous te louons et t'adorons pour cela. Et Seigneur, nous sommes dans cette joie aussi de savoir que nous avons une espérance qui est vivante, que ce jardin perdu, nous le retrouverons, que ce sera encore mieux d'ailleurs, puisqu'il n'y aura plus possible de chuter. Nous serons dans une situation parfaite. Mais nous te remercions, Seigneur, parce que d'ici là, d'ici ce temps qui sera absolument merveilleux, tu nous fais entrer dans un salut qui est concret, qui touche notre vie de tous les jours. J'aimerais te prier, Seigneur, de nous aider aussi à combattre la souffrance, l'injustice et tout ce que tu hais, tout ce que tu haïs d'une haine qui est parfaite, qui est sans erreur, qui est sans péché. Non pas en le faisant, en nous attaquant aux personnes qui sont peut-être touchées par ces choses-là, mais plutôt en cherchant à amener le bien, à faire du bien, à rétablir la justice, à être des hommes et des femmes qui vivent dans notre société d'une manière, non pas simplement à être passifs, mais actifs, que ce salut puisse se voir autour de nous et que chacun ne se focalise pas sur notre œuvre, mais que cela puisse être comme un moyen de ricochet qui dirige vers toi. Le Dieu juste, saint et parfait. Ô Seigneur, nous te louons parce qu'aujourd'hui encore, tu agis au travers de nos vies. Nous te remercions aussi parce que tu nous acceptes tels que nous sommes d'une manière totalement inconditionnelle. C'est une chose incroyable. Certains diraient que c'est une miséricorde insondable. Seigneur, nous voulons te louer pour cela, t'adorer de tout notre cœur. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.